Vous écoutez On lit pour vous.
Industrie du spa, un dossier d'Annabelle Caillou, paru le 14 juillet 2026 dans Le Devoir. L'industrie du spa a plus que jamais le vent dans les voiles, portée par une quête de mieux-être qui s'est accélérée depuis la pandémie. Premier texte. Le spa Botta Botta double sa flotte dans le Vieux-Montréal. Qui aurait cru que suer à grosses gouttes dans un sauna avant de plonger dans un bain glacé rallierait un nombre croissant d'adeptes? 60 ans après l'ouverture du premier spa au Québec, on ne peut plus parler d'un simple effet de mode. L'industrie du spa a plus que jamais le vent dans les voiles, portée par une quête de mieux-être qui s'accélère depuis la pandémie. Les curieux l'auront remarqué, un deuxième bateau a récemment jeté l'ancre à côté du spa sur l'eau Botta Botta dans le Vieux-Montréal. Devant un succès qui ne se dément pas depuis 16 ans, l'entreprise montréalaise s'agrandit et a ouvert les portes de sa nouvelle embarcation. Prochain arrêt? Reproduire le concept et l'amarrer dans d'autres ports nord-américains. On a pris un peu de retard dans les travaux. On pensait terminer cet hiver, mais on ouvre à temps pour la grosse saison, explique la propriétaire Geneviève Aymon, en faisant visiter en primeur au Devoir son nouveau bateau, nommé le Pavillon. Lors de notre passage, 3 semaines avant l'ouverture, des travaux de finition étaient encore en cours. Des ouvriers installaient des miroirs dans les vestiaires, pendant que d'autres s'attaquaient au système de climatisation. L'objectif principal de cette expansion de près de 2000 mètres carrés est d'augmenter la capacité d'accueil, la demande n'ayant cessé de croître dans les dernières années. La nouvelle embarcation, imaginée par Sid Lee Architecture, compte ainsi de nouveaux vestiaires comprenant environ 400 casiers supplémentaires. Aux étages, les visiteurs pourront profiter d'un immense bain à remous avec vue sur Habitat 67, d'une douche avec un mur végétal, de bains froids, d'un autre bain à remous sur le toit, ainsi que de plusieurs espaces de détente intérieurs et extérieurs. Un grand sauna occupe une partie du deuxième étage et a été conçu spécialement pour accueillir des cérémonies off-gus, ces séances guidées qui combinent musique, huiles essentielles et mouvements de serviettes, afin de créer une expérience multisensorielle. Le nouvel espace offrira une ambiance différente des installations originales, puisque les clients pourront y discuter en tout temps. Ça va nous permettre d'avoir une clientèle qui veut aller chercher quelque chose de différent comme expérience, précise Mme Aymon. En pleine croissance. Depuis son ouverture en 2010, le Botta Botta n'a cessé de grandir. Les jardins ont été ajoutés en 2015, puis en 2017, un sauna flottant derrière le restaurant. Au début de 2020, l'entreprise avait acheté une nouvelle barge pour agrandir les vestiaires. Mais la pandémie de COVID-19 a changé ses plans. On a tout mis sur pause. Et puis, contre toute attente, le projet a pris de l'ampleur. On s'est rendu compte que les gens avaient toujours autant, sinon plus, envie d'aller au spa après la pandémie. On a donc poussé l'idée encore plus loin, raconte Mme Aymon. Fin 2023, l'entreprise a donc acquis une barge plus grande, provenant de Sainte-Flavie, qui a été remorquée jusqu'au Vieux-Montréal après plusieurs mois de travaux. Cet achat permettra d'augmenter la capacité d'accueil d'environ 35 %. Le projet représente un investissement de 20 millions de dollars, financé notamment par des investisseurs privés et par une contribution du ministère du Tourisme versée dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Cap sur l'Amérique du Nord. La suite. La dirigeante ne ferme pas la porte à reproduire son concept de spa flottant au Québec, mais estime que le marché y est déjà bien occupé. Le consommateur de spa est très choyé au Québec. Les marchés extérieurs, eux, font pitié, soutient Mme Aymon. Plutôt que de concurrencer les établissements existants, elle préfère miser sur des villes où ce type d'expérience est encore peu présent ailleurs en Amérique du Nord. Des discussions sont déjà en cours avec plusieurs villes qui réaménagent leur secteur portuaire. Aucun projet n'est annoncé pour le moment, mais l'objectif est d'exploiter un premier spa à l'extérieur du Québec d'ici 2 ans. Tourisme estival. Le Bota Bota dit avoir rapidement retrouvé son rythme de croissance après la pandémie. À l'été 2025, l'entreprise a toutefois observé une baisse de sa clientèle touristique, en raison notamment d'un recul du nombre de visiteurs américains dans le contexte des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis. Cette diminution a été partiellement compensée par une hausse de la fréquentation des visiteurs ontariens. Selon les périodes de l'année, les touristes représentent désormais entre 15 et 30 % de la clientèle. Contrairement à plusieurs spas nordiques québécois qui connaissent leur plus forte affluence en hiver, le Bota Bota profite particulièrement des mois chauds ou étant le mois le plus achalandé. Vous écoutez Industrie du spa, un dossier d'Annabelle Caillou paru le 14 juillet 2026 dans Le Devoir. Deuxième texte. Le grand bond du tourisme thermal au Québec. Quoi retenir? Le Québec compte désormais près de 130 établissements thermaux. Entre 2021 et 2025, l'achalandage moyen des spas a augmenté de 54 %. Le tourisme de bien-être est l'un des segments qui progresse le plus rapidement à l'échelle mondiale. Longtemps perçu comme un luxe, réservé aux grandes occasions, l'expérience thermale est de plus en plus courue au Québec. Les établissements se multiplient, les investissements s'accélèrent et les visiteurs sont plus nombreux que jamais. Plus qu'une activité de détente, le spa est devenu un motif de voyage à part entière, stimulant l'activité touristique à travers la province. Le secteur va bien, même très bien. On s'est questionné pendant la pandémie, mais dès qu'on a pu rouvrir, c'est reparti en Lyon. Depuis, on sent une croissance constante, se réjouit Véronique Tremblay, présidente directrice générale de l'Association québécoise des spas, AQS. Il y a 20 ans, exploiter un spa relevait presque du pari audacieux. Le Québec compte pourtant près de 130 établissements aujourd'hui répartis dans 17 régions. De nouveaux établissements voient le jour, d'autres investissent massivement pour accroître leur capacité. Parmi eux, le spa flottant Bota Bota, dans le Vieux-Montréal, qui accueille un second navire au coût de 20 millions de dollars. Le Balnéa, lui, a investi pas moins de 15 millions dans l'agrandissement de ses installations thermales et de son hôtel. À Saint-Sauveur, le Strom Spa Nordique a aussi entamé des travaux d'envergure pour doubler sa capacité d'accueil d'ici l'hiver 2026. Si l'offre augmente autant, c'est que la demande a explosé. Entre 2021 et 2025, l'achalandage moyen des spas a bondi de 54%, atteignant près de 46 000 visites annuelles par établissement, selon une récente étude de l'AQS réalisée avec Raymond Chabot Grant Thornton et financée par le ministère du Tourisme du Québec. À Bromont, le balnéa connaît par exemple une hausse annuelle de fréquentation de 15% depuis 2 ans, 2025, ayant enregistré des records d'entrée. Je pense que la pandémie nous a aidés. Avant, c'était un luxe d'aller au spa. Maintenant, les gens voient ça comme une activité pour prendre soin de leur santé physique et mentale, croit Hugo Martin Bonneville, directeur du marketing et des communications de l'établissement. Guillaume Lemoine, PDG du Strom Spa Nordique, abonde dans le même sens. On a comme pris un virage santé qui semble être là pour de bon. Il y a un réel besoin de ralentir, d'être moins stressé, de se détendre, estime-t-il. L'entreprise, qui a lancé son premier spa sur l'île des Sœurs en 2009, en compte désormais une dizaine et prépare son expansion hors du Québec. Le spa, moteur de tourisme. Cette popularité ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs, mais aussi à la provenance de ceux-ci. Longtemps fréquentés par une clientèle locale, les spas sont devenus de véritables produits d'appel touristique. Selon l'AQS, près de la moitié, 46%, des visiteurs de spas sont des touristes qui passent au moins une nuit dans la région, soit une hausse de 12 points de pourcentage en 5 ans. Plus révélateur encore, le spa constitue la principale motivation du déplacement pour 62% des clients. Ce n'est plus seulement une activité qu'on ajoute à un voyage. C'est le spa qui motive maintenant le déplacement dans une région donnée, souligne Véronique Tremblay. Ces touristes contribuent à l'économie régionale en réservant des nuitées, en mangeant dans les restaurants et en fréquentant les attraits locaux. En moyenne, ils dépensent 279 $ directement au spa et 603 durant l'ensemble de leur séjour, selon l'AQS. Cet intérêt dépasse même les frontières. La clientèle internationale, qui représentait environ 10% des visiteurs en 2021, atteint maintenant 15%. La progression est particulièrement marquée dans les établissements urbains de Montréal et de Québec. Un marché encore loin de son apogée. Le tourisme de bien-être est l'un des segments qui progresse le plus rapidement à l'échelle mondiale, fait remarquer Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de tourisme Transat à l'UQAM. La détente et le bien-être figurent parmi les secteurs au plus haut potentiel lucratif identifiés par le ministère du Tourisme, note-t-il. Une récente enquête de la chaire montre que près d'un voyageur québécois sur 5 ayant séjourné au Québec dans la dernière année a fait une activité de spa, la même proportion que pour l'agrotourisme, un produit d'appel touristique déjà bien établi. À ses yeux, le potentiel de développement du tourisme du bien-être demeure immense. Ça peut devenir encore plus un réflexe d'aller dans un spa lorsqu'on découvre une région, à l'image d'un bon resto ou d'une activité sportive ou culturelle. Les bienfaits du voyage passent aussi beaucoup par la déconnexion, après tout. Les retombées de l'industrie des spas au Québec en 2025, 868 millions de dollars en dépenses totales générées. 690 millions en contribution au PIB québécois, 8 000 emplois soutenus, plus de 107 millions de dollars en recettes fiscales pour les gouvernements. Source AQS. C'était Industrie du spa, un dossier d'Annabelle Caillou, paru le 14 juillet 2026 dans Le Devoir.
Évaluer la dangerosité des hommes grâce à une sororité numérique sur Facebook. Un texte de Noémie Bokouma, paru le 6 juillet 2026 dans Le Devoir. Tantôt louangés pour leur capacité à éviter aux femmes les fréquentations amoureuses dangereuses, tantôt décriés pour les risques liés à la diffamation qu'ils présentent, les groupes Facebook « Are we dating the same guy? » continue de gagner des adeptes au Québec. Regard croisé sur ces communautés de sororité numérique, dont les racines remontent pourtant à l'ère pré-réseaux sociaux. Les pages Facebook « Are we dating the same guy? » »« Est-ce qu'on fréquente le même homme? » sont des groupes privés, généralement exclusifs aux femmes, qui leur permettent d'évaluer la possible dangerosité de l'homme qu'elles ont l'intention de fréquenter. En publiant la photo d'un individu, une femme peut solliciter de l'information sur celui-ci afin de savoir si elle devrait s'en méfier. Elle peut aussi faire part d'une expérience positive le concernant, green flag ou drapeau vert, ou au contraire, conseiller aux autres femmes de prendre ses distances de lui en évoquant un ou des red flags, drapeau rouge, soit des signes de danger. Ainsi, ce type de groupe numérique permet d'aborder des situations qui ne sont pas criminalisées ou qui ne sont pas criminalisables, déclare Sandrine Ricci, sociologue affiliée à la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. L'éventail des publications qui se trouvent dans ces groupes est large. Dénonciation d'hommes infidèles. Publications exposant certains individus ayant des comportements toxiques ou dangereux et potinage. Ces groupes s'inscrivent dans une série de pratiques remontant avant l'arrivée des réseaux sociaux, explique Carrie Rentschler, professeure agrégée au département d'histoire de l'art et d'études de la communication à l'Université McGill. Elle les qualifie de « whisper networks », des réseaux de chuchotement, où des individus se transmettent des informations en privé afin de signaler une personne à éviter. Ainsi, ces groupes numériques utilisent la culture en ligne pour partager des informations et créer des conditions de sollicitude, explique-t-elle. Si les femmes se tournent vers ce type de solution, c'est parce qu'elles ont l'occasion d'être crues, entendues et prises au sérieux, ce qui leur permet de se sentir validées par rapport à ce qu'elles auraient pu vivre de mal ou de néfaste en contexte relationnel, ajoute la professeure de l'Université McGill. La protection des femmes sur le numérique délaissé. La réalisatrice Anne Lovely-Étienne, qui a fait paraître au début juin le documentaire féministe consacré au phénomène, admet avoir été initialement divertie par certaines publications qu'elle a pu consulter sur ces groupes lors de ses recherches. Toutefois, c'est en se retrouvant face à une publication où l'assassin d'une de ses collègues était affiché qu'elle a pu mesurer les dangers liés aux relations intimes sur le numérique. En dénonçant la liberté avec laquelle cet individu navigue sur les plateformes de rencontres et de réseaux sociaux, elle reproche à ces plateformes un manque de volonté pour assurer la protection des femmes en ligne. Citant en exemple la loi Gabi-Renault, qui permettra à certaines personnes de connaître les antécédents violents de leurs partenaires, Anne Lovely-Étienne souligne la nécessité d'une même possibilité sur les réseaux sociaux et les plateformes de rencontres. elle insiste sur le fait que la protection des utilisateurs sur les plateformes de rencontres est une responsabilité morale et qu'elle devrait se faire par une vérification d'antécédents judiciaires. L'animatrice et réalisatrice indique que les auteurs de crimes contre les femmes qui font usage des réseaux sociaux savent très bien quels sont les codes technologiques à utiliser. Cette manipulation des réseaux sociaux leur permet de ne pas laisser de preuves, ce qui restreint les actions judiciaires accessibles aux victimes. Des balises légales. La loi est complexe relativement au groupe « Are we dating the same guy ?». Pour les autrices de certaines publications, la préoccupation principale est l'atteinte à la réputation de la personne concernée, selon Maître Mathilde Simard-Zakaïb, avocate spécialisée en litiges civils et commerciaux. Les personnes, estimant que leur réputation a été atteinte, peuvent avoir recours à une action en justice, la poursuite pour diffamation. Cette infraction civile permet d'indiquer qu'il y a eu de la diffamation, de la diffusion de propos qui sont soit vrais ou faux, mais qui ne sont pas d'intérêt public et qui sont véhiculés avec une intention malveillante, donc une intention de nuire à autrui, explique-t-elle. Ainsi, de la modération à la publication, chaque personne aurait un degré très variable de responsabilité. Pour les modératrices, puisqu'elles ont un contrôle sur les propos publiés, elles pourraient être tenues pour responsables si les publications admises étaient jugées diffamatoires. Pour les autrices de ces publications, la véracité des propos et leurs intentions peuvent être remises en question. Selon Anne Lovely-Étienne, les risques liés à la diffamation sont réels et légitimes, mais elle rappelle que c'est un petit pourcentage de femmes, une infime partie, qui en est coupable. Selon Sandrine Ricci, il y a effectivement un équilibre qui doit être trouvé par rapport au respect de la réputation et de la vie privée des individus et la liberté d'expression. En revanche, la sociologue observe que la poursuite en diffamation peut être utilisée pour faire taire les victimes, servir d'une sorte de représailles contre celles-ci. Elle s'inquiète également de l'effet prophylactique que peuvent avoir ces poursuites où la menace de celles-ci peut dissuader d'autres victimes potentielles de prendre la parole. La professeure Carrie Rentschler, pour sa part, considère que la réputation est une devise très puissante avec laquelle les personnes influentes utiliseraient la poursuite judiciaire afin de contrôler la manière dont elles sont perçues. Confirmant tout de même que les risques liés à la diffamation existent, elle estime que le problème majeur reste que les femmes qui font part de leurs expériences publiquement ne soient pas crues. La plupart des personnes se tournent vers ces solutions pour dire la vérité sur ce qui leur est arrivé, soutient-elle. C'était « Évaluer la dangerosité des hommes grâce à une sororité numérique sur Facebook », un texte de Noémie Bokouma, paru le 6 juillet 2026 dans Le Devoir.
Un nouveau prix pour récompenser les livres sonores. Un texte d'archives de Radio-Canada paru le 15 novembre 2013 sur Ici Radio-Canada est diffusé dans le cadre du 50e anniversaire de Vues et Voix, anciennement connu sous le nom de La Magnétothèque. Prenez note que cet article publié en 2013 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour. Les studios d'enregistrement de Montréal de la bibliothèque DNCA ont remporté en 2013 le tout premier prix du livre sonore Euphonia dans la catégorie du livre adapté pour la narration de
pour sûr de France d'Aigle par la comédienne Catherine Deceve. Ce prix décerné au Québec était parrainé par Vuzévoix, anciennement la Magnétothèque, et récompensait les meilleurs livres sonores en français. Dans la catégorie du livre sonore adapté, le prix était assorti d'une bourse de 1 000 alors offerte par Radio-Canada. Dans la catégorie livre sonore commercial, c'est la narration d'Illusion, Le Messie récalcitrant, de Richard Bach, édition ADA, par Vincent Davy et Tristan Harvey, qui a été récompensé. Les livres sonores adaptés, à la différence des livres sonores commerciaux, sont produits exclusivement à l'intention des aveugles et des personnes souffrant de perte de vision. Marjorie Théodore, présidente directrice générale de Vuzévoix, a d'ailleurs invité les maisons d'édition québécoises à emboîter le pas à la France en offrant leurs fichiers sources, ce qui permettrait aux personnes qui vivent avec une déficience perceptuelle d'avoir accès aux livres sonores en même temps que la parution de la version imprimée. 750 pages, 6 mois de travail, 26 heures d'enregistrement. La comédienne Catherine Deceve, qu'on peut voir à l'écran dans le rôle d'Anaïs Provencher dans L'Auberge du Chien Noir sur Ici Radio-Canada Télé, a commencé à être lectrice bénévole il y a 12 ans. La narration des 750 pages du roman de France d'Aigle, prix du gouverneur général en 2012, lui a demandé 6 mois de travail dans les studios montréalais d'INCA, à raison d'une séance de 3 heures par semaine, a-t-elle indiqué en entrevue à Canal M, la radio de Vuzévoix. Au final, sa narration représente 26 heures d'enregistrement. Le Chiac, tout un défi. Le principal défi est venu du fait que le livre est constitué en grande partie de dialogues en chiac, le parler des Acadiens, mêlant l'anglais et le français. Michel Bonneau, superviseur des studios d'enregistrement d'INCA, a confié ce travail de titan à la comédienne, car son père étant originaire du Nouveau-Brunswick, elle était capable de prendre un accent acadien. C'était un nouveau prix pour récompenser les livres sonores, un texte d'archives de Radio-Canada paru le 15 novembre 2013 sur Ici Radio-Canada et diffusé dans le cadre du 50e anniversaire de Vuzévoix, anciennement connu sous le nom de La Magnétothèque. Prenez note que cet article publié en 2013 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.